racing or watch it.
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssat Toun Doyle, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, donc, Fabienne Pascaud, Marie-Josée Sirach et Anna Sigalevitch pour parler ensemble de À la trace d'Alexandra Badet, à mise en scène Anne Théron. C'est en ce moment au Théâtre de la Colline. Reconstitution de Pascal Rambert en ce moment au Théâtre de l'Aquarium. Et Névrotique Hôtel de Michel Faux en ce moment au Théâtre des Bouffes du Nord. Et Aïssat Toun Doyle est également avec nous pour donner à entendre vos commentaires via Facebook ou Twitter. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le spectacle Parole gelée d'après François Rabelais, mise en scène Jean Bellorini. Place à gagner pour ce vendredi 18 mai à 20h au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Nous ouvrons cette dispute avec une pièce signée Alexandra Badea, mise en scène par Anne Théron, avec un quatuor d'actrices sur le plateau. Spectacle 100% féminin, ou presque, on va en parler. En tout cas, comme notre plateau critique ce soir, il s'agit donc de À la trace, en ce moment au Théâtre de la Colline, après sa création au Théâtre National de Strasbourg. C'est la metteur en scène, en l'occurrence, qui a passé commande à la dramaturge, désirant traiter du rapport mère-fille. À la trace raconte donc la recherche d'une mère par sa fille.
Mais pourquoi tu as fait ça? Tu le sais maintenant?
Quoi? La chute ou la fuite?
La chute.
Il y avait trop d'amour. C'était trop lourd à porter. Je ne pouvais plus tenir. J'ai longtemps essayé d'expliquer ce geste. Je n'y arrive pas vraiment.
Et la fuite?
Il y a des gestes définitifs, des points de non-retour. J'étais vide, plus rien à donner. Si j'étais restée, j'aurais abîmé tout. J'ai marché pour faire taire ma pensée, j'ai marché pour épuiser mon corps, j'ai marché pour faire taire les démons qui hurlaient à l'intérieur, mais rien ne marchait. Ces paroles tournaient encore dans ma tête, d'autres phrases s'articulaient, j'étais devant une vérité que je connaissais depuis longtemps, mais que j'avais toujours retrouvée.
À la trace, donc en ce moment à l'affiche du Théâtre de la Colline à Paris. Alors j'ai dit plateau 100% féminin, mais on va l'expliquer. Il y a des acteurs qui eux sont là par le biais de la vidéo, enregistrés en l'occurrence, enfin on s'en doute. Ils sont pas présents chaque soir, d'autant qu'il y a des extérieurs et ce serait un petit peu compliqué. Et certaines fois, voilà, ça tuile un petit peu, mais c'est quand même remarquablement bien fait parce qu'ils sont là généralement par Skype avec l'une des interprètes. Peut-être donner quelques explications. J'ai dit une fille cherche sa mère, parce qu'en effet, c'est le point de départ du spectacle. Le décès d'un père, la découverte par sa fille de différents éléments qui vont lui donner peut-être des pistes pour chercher sa mère dont elle ne connaît que le nom. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les gens qui portent ce nom dans les annuaires ou dans les annuaires internet de nos jours. Et cette jeune fille va chercher plusieurs femmes qui portent le nom de sa mère, laquelle sera-ce? Nous le verrons en suivant À la trace. C'était pour la rime. Marie-Josée Sirach.
Oui, oui, c'est un curieux hasard du calendrier. Le fait qu'il y ait quand même, à la Colline, il faut le préciser, deux pièces d'auteurs. En même temps, il y a Au bois de Claudine Galéa et À la trace d'Alexandra Badea. Ce qui prouve que parfois on n'est pas obligé de signer des chartes de bonne conduite. La question de la femme, de la place de la femme, quand on veut, on peut. Parce qu'elles existent, elles écrivent. Et donc là, c'est, on a affaire à une auteure, Alexandra Dongbadea, et Anne Théron, à la mise en scène. Donc vous le disiez, c'est une course-poursuite, non pas contre la montre, mais en tout cas avec le désir de retrouver sa mère biologique, puisque cette jeune fille a été élevée par une mère, mais par le plus grand des hasards, elle retrouve une vieille carte électorale sur laquelle figure un nom, et elle part à la recherche de sa mère. En tout cas, elle soupçonne que c'est sa mère, et elle part de par le monde rechercher. Et donc, c'est toute la question de la maternité à travers cette recherche, puisque sa mère, comme la grand-mère, c'est-à-dire qu'on va remonter on va avoir trois générations de femmes, se pose la question des relations mère-fille qui peuvent naître ou ne peuvent pas naître, qui peuvent s'épanouir, ne pas s'épanouir dans une société patriarcale où le devoir de toute mère est d'élever son enfant comme il se doit. Or, il se trouve que là, chacune est partie, laissant en plan son enfant. Et s'est construite ou reconstruite, ou en tout cas s'est émancipée. Et c'est assez intéressant parce que je trouve que c'est une écriture extrêmement intime, mais qui ouvre beaucoup, qui repousse un peu les lignes d'horizon sur la question de la femme, parce qu'on n'est pas dans la plainte, on est dans la découverte, dans la curiosité, dans le désir de vivre, d'assumer ses pulsions et ses passions sexuelles, amoureuses, d'aller vers l'autre, quelle que soit la situation. Et Alexandra Théron réussit à rendre... Anne Théron réussit à rendre palpable ce désir, ces silences, cette quête sur le plateau par une mise en scène assez intéressante et avec un parti pris où effectivement les hommes sont absents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi cette absence des hommes sur le plateau. Ils le sont à travers l'écran, par écran interposé. Et tout ça fonctionne en même temps avec le texte et avec l'imaginaire, ce qu'on peut se dire... Que serait un monde où les hommes, non pas seraient à leur place, mais seraient à côté.
Et leur place, les pauvres, mis en boîte,
à distance. Mais, ou en tout cas, ils sont à distance, et je les trouve très respectueux. C'est ça qui est assez beau. C'est-à-dire que, on n'est pas dans un affrontement stérile. On est dans des relations complexes, mystérieuses, où on laisse planer le doute. Et aucun des hommes n'est en train de chercher à la culpabiliser à la faute ou à la culpabiliser. Ils sont dans un vrai respect de cette femme qui part, qui disparaît, dont on sent que tout ce qu'elle raconte n'est pas très vrai, mais peu importe. Et ces allers-retours entre vérité et mensonge font que ces trois femmes, la grand-mère, la mère et la fille, finissent par se retrouver à un endroit et construire cette histoire.
Fabienne Pascaud, premier regard sur ce « À la trace ».
Ah, moi, j'ai trouvé ça insupportable, personnellement. J'avais hâte que les hommes apparaissent sur l'écran. Ils sont tous formidables. Enfin, des hommes qui nous changent de ce climat psychanalytique, féministo, je ne sais quoi, lent, long, asséné, où finalement, le propos est simple, hein, c'est reconnaître le droit des femmes à ne pas vouloir d'enfants. Donc, ça, c'est tout à fait légitime et on le reconnaît tout à fait, les femmes ne sont pas forcément des mères. Mais là, dans le spectacle, bizarrement, c'est les filles qui accusent leur mère de les avoir abandonnées. Donc, dans le propos, il y a une contradiction de l'auteur, je pense. Parce que l'héroïne, elle en veut terriblement à sa mère en veut à sa grand-mère qui les a aussi abandonnées. Donc, tout ça se mord un peu la queue, si, hélas, pas vraiment. Et donc, moi, j'ai trouvé ça, mais... Pesant, long, lent. Certes, bien interprété, mais c'est de la psychanalyse à deux balles. Et franchement, les personnages les plus intéressants, ce sont ces hommes trop éloignés sur les écrans et qui, eux, ont des doutes, qui, eux, n'assènent pas des vérités, qui, eux, sont dans l'écoute, qui, eux, interprètent sans pathos aucun, je vais les citer parce qu'ils sont tous exceptionnels. Alors, Alex Desca, c'est irrésistible de séduction, je trouve. Ouais, je dis moi, ouais, très bien. Laurent Poitrenaud, magnifique comme d'habitude. Yannick Chouara. Et moi, finalement, c'est la seule chose qui m'a importé d'écouter la parole de ces hommes, qui était enfin une parole un peu juste, un peu vraie, et qui n'était pas phagocyté par des discours convenus et politiquement corrects sur les femmes et sur les rapports des filles et des mères, dont bien d'autres, avant Alexandra Badea, ont dit combien ils étaient difficiles. On aura l'occasion d'y revenir, même à travers le spectacle de Pascal Rambert tout à l'heure. Ce qui m'a intéressé quand même dans le spectacle, c'est la relation que Anne Théron sait établir assez étonnante entre une comédienne qui parle à un acteur qui est sur un écran vidéo. Et elle lui parle vraiment, ça c'est les mystères de la technique, hein, et il y a vraiment un langage qui s'élabore entre théâtre et cinéma. Et ça, je trouve ça assez prometteur, c'est dans la lignée de Christiana Jatayi, de Christiane Jatayi et de plein d'autres qui travaillent sur les relations au cinéma, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. La seule chose intéressante pour moi de ce spectacle.
Bon, Anna Sigalevitch, qu'on n'a pas encore entendu sur À la trace.
Alors pour moi, il y a une dichotomie entre l'articulation du spectacle, le propos et en fait sa réalisation. C'est-à-dire que la conception du spectacle, je la trouve intéressante parce que je trouve que les personnages sont intéressants, pas que les hommes, les femmes aussi. Je trouve qu'il n'y a pas de binarité. Ah non, attendez, non mais la conception, je ne parle pas de la réalisation. La conception, c'est-à-dire... Je trouve que c'est intéressant comment s'articule le spectacle à la recherche de ces quatre femmes, l'alternance entre justement virtuel, réel, didascalie, texte intérieur, adresse. Il y a pour moi une articulation dramatique que je trouve bonne. Le synopsis me plaît, en fait. Et il n'y a pas de jugement moral, il n'y a pas de...
C'est bourré de jugement moralisateur.
Non, pas exactement. Non, je ne trouve pas que ce soit moralisateur. Je trouve que en revanche, malheureusement, il y a un problème de texte, d'écriture en fait concrète sur scène. C'est-à-dire que bon, alors c'est toujours facile d'extraire certaines phrases, mais pardon, je peux pas m'empêcher quand on dit il faut laisser le passé au passé, ou le chemin est parfois plus intéressant que la cible, ou la vie aurait le rythme d'une symphonie en do majeur. Moi, ça me hérisse tellement le poil que j'ai du mal en fait à rester dans le spectacle. Voilà, pour moi, il y a un problème d'écriture, de dialogue, de poncive, de choses qui enfonce des portes ouvertes et qui enfile un peu les perles concrètement dans ce qui se passe en scène. Et je trouve que c'est dommage parce que il y a l'idée de quelque chose d'autre et d'une complexité dans les rapports. Donc, je suis partagée entre ce que le spectacle essaye de faire et puis concrètement ce qu'il a produit sur moi. Et puis, il y a aussi un problème, c'est que formellement, c'est sophistiqué et c'est assez savant. Avec cette structure métallique, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a une grande structure métallique qui est au centre du plateau avec une dizaine de cases, enfin avec 8 cases et une ouverture au centre en bas. Et ces cases sont comme les différentes zones du cerveau où on se balade d'un endroit à un autre, le passé, le présent, le virtuel, le réel. Par moments, ces cases aussi sont le réceptacle des hommes qui sont projetés. Et je trouve que ça marche assez bien, les déambulations comme ça dans l'histoire, de par le monde aussi, parce que le personnage, comme vous le disiez, de la vraie Anna Girardin voyage partout. Elle est au Japon, elle est à Kinshasa, elle est un petit peu partout. Et ça, je trouve que c'est intéressant, cette espèce de cartographie intime et mémorielle qui se dessine. Donc, voilà, la complexité de la forme, le fait que les personnages soient pas binaires, oui, mais malheureusement, la substance, c'est-à-dire le concret, la matière de ce qui se joue en scène, en revanche, et puis ça, pour moi, ça ne s'anime pas. Il y a quelque chose de glacial, et je trouve que ça manque de théâtre. C'est-à-dire qu'il y a, en effet, une forme ambitieuse, mais qui ne prend pas vie.
Alors peut-être un retour vers la défense avant que j'intervienne, parce que je crains de ne pas être du même côté que Marie-Josée Sirache. Par rapport à ce que vous venez d'entendre de Fabienne Pascoe et d'Anna Sigalevitch, quelques réactions, Marie-Josée ?
Non, enfin moi je trouve qu'on connaît toutes autour de cette table et tous, pardon Arnaud, la phrase culte, on ne naît pas femme, on le devient, mais on ne naît pas mère,
on le devient ou pas. C'est ce que c'est la question qu'elle pose.
Mais ça, c'est le propos. C'est,
ben oui, mais à partir de là, elle construit
mais
une
qu'est-ce
histoire.
Qu'est-ce qu'on en fait de ça sur scène?
Bah, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je sais pas. Texte. Moi, je suis partie dans cette histoire. Enfin, vous n'êtes pas partie. Ok, mais moi, je suis complètement rentrée dedans.
C'est que
dedans.
Des banalités, ce qu'elle nous mais raconte.
Mais non, c'est pas
sur
des banalités.
Entre les mères et les filles, on a envie
je trouve
de dire
qu'il y a
aux
plus
filles,
de banalités chez Rambert que chez elle, que chez Alexandra Bader.
On viendra vers Rambert dans un instant. Mais c'est vrai que moi, j'allais avec appétit au Théâtre de la Colline. J'aurais pas dû, effectivement, parce que c'est quand même un des spectacles qui m'a le plus énervé de ces dernières années, je dois dire, mais c'est vraiment uniquement pour moi la faute qui en incombe au texte, puisque je l'ai lu après le spectacle, et je ne ferai pas de citation, mais je peux l'ouvrir à n'importe quelle page, et je suis aussi irrité par cette écriture d'Alexandra Badea, qui en effet, pour moi, est à la fois sentencieuse, inutilement précieuse, enfin, faite de formules assez creuses, tout ça fait beaucoup de rimes, ce qui est pas mal, et alors que je trouve que les comédiennes sur le plateau sont... On le sait pour Nathalie Richard et pour Judith Henry, qu'on a beaucoup vu, excellente. Je ne doute pas de la qualité de leurs deux camarades. Les hommes aussi sont très bons. Moi, je trouve que, effectivement, la scénographie fonctionne plutôt très bien. Le travail de vidéo est vraiment intéressant. Donc, pour moi, le travail d'Anne Théron n'est pas, ni de ses interprètes, n'est pas vraiment en cause, mais vraiment seulement le texte. Et c'est vrai que. C'est pas du tout. Voilà, on n'est pas là pour dire du mal de tel ou tel. On est là pour donner notre ressenti. C'est pas une agression d'Alexandra Badea. C'est juste moi, je donne mon ressenti de spectateur. J'ai déjà dit beaucoup de mal ici, notamment de Pascal Rambert ou même de Wajdi Mouawad. Ça n'empêche pas qu'il touche un très large public. Moi, j'ai entendu quelques réactions et lu de ci de là sur les réseaux sociaux des réactions très enthousiastes pour ce spectacle d'Alexandra Badea.
Non. Je demandais si c'était sur ce spectacle.
Oui, sur ce spectacle-là, sur À la trace. Donc moi. Ça m'a vraiment irrité pour l'écriture. Et c'est vrai que pour l'écriture, parce que le point de départ, on l'a tous dit ici, forcément est intéressant. Mais
oui, mais pas que le point de départ, parce que moi je trouve que c'est construit de façon intéressante. Donc on peut aussi quand même.
C'est la langue, vraiment.
Voilà, rendre justice.
Mais le propos est quand même très paradoxal, parce qu'on ne peut pas revendiquer, comme le fait Alexandra Badea, le droit des femmes à ne pas avoir d'enfants, ce qui est tout à fait légitime, et montrer une fille qui cherche sa mère désespérément et qui reproche à sa mère de l'avoir abandonnée.
C'est pas le droit d'avoir des enfants, c'est le droit de ne pas élever son enfant.
Mais on a envie
enfant.
De lui dire, sois grande ma petite, et puis laisse tomber ta mère, pense à autre chose, enfin c'est ridicule.
Non mais c'est pas le problème de la fille, c'est le problème de la mère. C'est-à-dire que la mère
elle cherche
vie,
sa mère partout.
Enfin, oui mais sa mère fuit parce que justement elle a du mal à assumer
fuir.
Ce geste-là.
Mais qu'elle laisse sa mère fuir.
Ah bah... Après, mais bah non, sinon, il n'y a pas d'histoire à ce moment-là.
Mais oui, c'est psychanalytiquement, cette quête
mais
de la
moi,
mère.
Moi, je n'y vois pas de lecture psychanalytique.
Mais... Alors là,
on s'en fiche un peu.
Il
n'y
a
de
pas
ça.
De lecture psychanalytique. Ça baigne là-dedans, complètement.
Moi, je trouve qu'elle met en scène trois femmes simples qui, avec leurs mots, dans leur univers, essayent de réfléchir à des questions que l'on réserve en général à des intellectuels.
Donc, oui, mais elles s'emparent de cette question. Femmes simples, Marie-Josée.
Mais leurs phrases sont simples. C'est pas tout le monde comprend quand même cette histoire. Elle est.
C'est pas parce qu'un sujet, un verbe, un complément que ça fait une phrase simple. Non, personne ne parle comme ça dans la vie.
Oui, bon, d'accord.
Non, c'est juste sur ce point-là.
Peut-être, on est au théâtre aussi, donc il y a une part de fiction, donc on peut aussi, on n'est pas obligé de les faire parler comme des roturières. Enfin, je sais
non,
pas
non,
moi.
C'est pas
le problème. Mais et puis cette façon, par exemple, le personnage central de la mère qu'incarne donc Nathalie Richard, elle, je trouve que. Elle est très libre dans sa façon de bouger dans le monde, de partir, de revenir, de fuir et en même temps de chercher parce qu'elle aussi retourne chez sa mère, chez la grand-mère. Donc, il y a un va-et-vient incessant et ça, je trouve, c'est assez touchant parce que ça dit beaucoup des hésitations dans un monde de moderne, de communication où on n'arrive pas à se dire les choses simplement aussi. Donc, moi, je...
Oui, elle a besoin des inconnus, mais ça, je suis d'accord avec vous. Elle a besoin des inconnus pour pouvoir se trouver, se retrouver,
oui.
Pour pouvoir...
Elle teste des mensonges. Elle se raconte elle-même ses mensonges comme si elle voulait les vérifier, puis finalement elle s'approche de la vérité, puis elle s'en éloigne. Donc ces allers et retours, moi je les trouve intéressants. Et la fille vient là-dedans, non pas pour quêter ou reprocher quoi que ce soit à sa mère. D'ailleurs, je trouve que il y a une part de résilience dans tout ça, parce que finalement la fille, elle ne la harcèle pas. C'est-à-dire qu'elle essaie de retrouver sa mère. Ça peut être un jeu. Au départ, ça ne l'est pas, mais ça devient une sorte de jeu. Et finalement, quand elle retrouve la grand-mère, elle a compris. Et elle la laisse vivre sa vie. C'est-à-dire qu'elle comprend elle aussi que sa mère a décidé de vivre sa vie. Donc...
Bah, la fin est ouverte, de toute façon.
Oui, complètement.
Ouais.
Quelques réactions à Issa Tundoy sur les réseaux, sur Twitter en l'occurrence.
Oui, un message d'Ecosen, pour qui l'écriture est trop visible et la direction trop appuyée, la pièce manque vraiment de finesse, même si la scénographie est plutôt réussie.
Et vous m'avez montré un autre message sur votre écran, c'était...
Mordu de théâtre, qui quitte un instant son fil Twitter pour signifier qu'il était complètement d'accord avec vous sur le fait que ce spectacle, c'est l'un des spectacles qui l'a le plus énervé depuis longtemps.
Bon.
Et que la faute incombe au texte.
Ah, voilà. Les avis sont partagés. En tout cas, La Trace se donne jusqu'au 26 mai au Théâtre National de la Colline à Paris. Le texte est publié chez L'Arche Éditeur. Comme ça, chacune et chacun, et on le souhaite toujours, pourra se faire sa propre opinion. À suivre dans la dispute, une nouvelle pièce de Pascal Rambert, donc, et le retour de Michel Faux au Cabaret Théâtre.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir au théâtre avec un spectacle que je n'ai pas encore vu, Reconstitution 2 et mise en scène de Pascal Rambert, qui signe également la scénographie et les lumières. C'est un spectacle que l'auteur et metteur en scène a donc écrit en réponse à une demande de Véronique Dahuron et Guy Delamotte, qui dirige le Pantathéâtre à Caen. Il s'agit, comme son titre l'indique, de reconstituer leur histoire d'amour, un amour passé.
Je voulais revenir avec toi sur...
On a fermé les portes.
Je m'en occupe.
Celle du fond.
J'y vais.
Tu as les clés ?
Oui.
Donne.
Mais tu les as jetées ?
Oui. Tu as éteint ton portable ?
Je le fais maintenant.
Ça va ?
Ça va.
Allez, viens, on se regarde. De loin, recule encore, encore.
Là ?
Là, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est...
Tu trouves ça inconfortable ? Tu trouves ça long ? Tu ne trouves pas ça beau ?
Si, mais un peu inconfortable, oui.
Quoi ?
Rien.
C'est dur, hein ?
Oui.
Tu te sens mal ?
Ce n'est pas ça, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas.
Se regarder longtemps sans rien dire ?
Oui.
Oui.
Surtout après si longtemps. Et dans les yeux.
Voilà. Tu es tout tordu.
Oui, ça se voit beaucoup.
Oui, quand on regarde vraiment. Tu voulais qu'on se voie, non ?
Oui.
Alors on se regarde.
Oui. On est venu pour refaire, remettre en place, en ordre. Remettre en ordre notre présent en repartant dans nos années de jeunesse. Il faut parfois remonter loin pour réparer, en général, le présent.
Voilà pour cet extrait de Reconstitution, nouveau texte mis en scène Pascal Rambert, pour cette commande assez originale. Le spectacle se joue en ce moment au théâtre de l'Aquarium. Fabienne Pascaud, pour commencer.
Ah, moi, c'est un spectacle qui m'a bouleversée par sa simplicité, sa pudeur, sa vérité, sa profondeur. C'est une histoire d'amour ou de désamour ou de réamour absolument magnifique, bouleversante pour moi. Alors l'anecdote, le contexte plutôt, il est amusant, c'est-à-dire que deux directeurs de théâtre du Pantathéâtre à Caen ont accueilli Clôture de l'amour de Pascal Rambert, ont beaucoup aimé Clôture de l'amour, ont invité le spectacle deux fois. Avec Audrey Bonnet. Et puis finalement, ils sont beaucoup sympathisés. Pascal Rambert a compris que ces deux magnifiques comédiens, Véronique Dahuron et Guy Delamotte, avaient envie qu'il leur écrive une pièce. Donc il leur a écrit cette pièce, qui est un peu la suite de Clôture de l'amour, où deux vieux amants se retrouvent des années après, 20 ans après. Alors d'ailleurs, ils portent un peu le même costume que Audrey Bonnet et Stanislas Nordet dans Clôture de l'amour. Et donc, ils se retrouvent, le corps un peu défraîchi, abîmé, vieilli, le cheveu gris, les poils gris, parce qu'ils vont se déshabiller, vont se regarder, et ils vont essayer de reconstituer leur coup de foudre et de comprendre ce qui s'est passé. Alors, elle, visiblement, est encore très amoureuse de lui. Lui l'a quitté, on comprend qu'il l'a quitté pour une autre femme. Ils ont une enfant, une fille, et là, on retrouve encore sur le problème des mères et des filles. La fille du couple ne donne plus du tout de nouvelles à sa mère, qu'elle ne peut plus supporter, mais n'a de lien qu'avec son père. Et ils se racontent leur histoire d'amour, ce qui n'a pas marché, mais avec beaucoup de pudeur, c'est rien. En fait, on ne saura rien parce que Pascal Rambert sait maintenir la distance, le respect de la relation amoureuse. Donc en fait, on ne sait pas vraiment ce qui a cloché. Mais quand ils jouent leur rencontre, leur coup de foudre, ils sont encore aussi émus que quand ils l'ont vécu. Et ils sont devenus vieux. Donc cette permanence des sentiments, cette permanence du choc amoureux, qui va aller très loin, mais je ne vais pas spoiler la fin du spectacle. Moi, je trouve que c'est une rencontre et une réflexion sur l'amour, sur le temps qui passe, sur les corps qui vieillissent, sur les vieux amants que chantait Jacques Brel. Moi, j'ai reçu ça de plein fouet, j'ai trouvé ça bouleversant.
Bon, ne divulgâchons pas. Anna Segalevich sur Reconstitution de Pascal Rambert.
Mais moi, je ne l'ai pas exactement ressenti comme vous, Fabienne.
Vous êtes trop jeune.
mais j'ai été quittée, j'ai vécu des choses. Et effectivement, cette douleur quand même de
mais
de
retrouver
ça, de
un vieil amant, vous ne trouvez pas que ça peut être magnifique? L'homme qu'on a désespérément aimé et qu'on retrouve après?
Ça, c'est vrai que je
ne
connais pas. Mais...
bon, c'est beau.
Oui, c'est beau. C'est beau, l'idée est belle, mais moi je ne l'ai pas vu comme le fait de retrouver un vieil amant. Si ça avait été ça, j'aurais trouvé ça peut-être beau aussi, et peut-être que ça m'aurait plus touchée. Là, ce que j'ai ressenti, en fait, même si je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une vérité de ces deux personnes en scène qui se mettent vraiment à nu, sans phare, sans filtre, ils se plantent sur scène et ils font avec ce qu'ils sont, et ils trichent jamais, et il y a une... La sincérité, on s'en fiche, mais là, en l'occurrence, il y a quand même une sincérité qui est saisissante. Mais, alors, là où le spectacle m'a posé problème, c'est que j'ai senti quelque chose d'un peu volontariste dans le fait de se planter sur scène. Alors, c'est le projet, hein, la reconstitution. Donc ça, on peut dire que le spectacle respecte son titre et sa promesse, reconstitution. Voilà. Mais justement, pour moi, il y a une reconstitution qui n'entre pas en collision avec le présent. C'est-à-dire que je vois cet homme et cette femme, effectivement, comme dans le décor, quasiment dans le même décor que Clôture de l'amour. C'est vraiment, ça rabande avec Scène de la vie conjugale. Hein. C'est on se retrouve beaucoup plus tard.
Il y a une rampe de néon aussi. Hein.
Comment ?
Il y a une rampe de néon aussi.
Oui, avec
vous avez compté.
Mais bien sûr, il y en a 20.
Comme j'étais pas là, je vous comptais sur vous pour connaître le nombre de néons.
Évidemment. Avec quatre tables au fond qui sont des sortes de tables métalliques de cantine qui sont alignées, avec les deux tables à l'extérieur qui sont les tables du passé. D'ailleurs, son passé à elle, c'est 9 cartons et son passé à lui, c'est seulement 2 cartons. Il a jeté, il s'est dépouillé des choses. Il y a une table de la reconstitution. Hein, et puis une table du souper qui va servir peut-être de table de la réconciliation, on ne sait pas. Voilà. Et pendant tout le spectacle, donc ils vont essayer de revivre donc la reconstitution, le moment de leur rencontre, leur premier baiser. Donc ils mettent tout en scène avec le fait qu'il pleuve, ils ont les cirés de l'époque, ils ont tout. Bon, alors c'est amusant, mais comment dire, pour moi, en fait, leur corps d'aujourd'hui ne vivent pas ce qui s'est passé à l'époque,
normal.
Bien sûr, mais ce que ça leur fait aujourd'hui. C'est ça pour moi le problème, c'est que le passé n'entre pas avec le présent. On est uniquement dans la reconstitution et la vitalité, elle est déployée totalement sur le passé. Et moi, ce qui m'intéresse au présent, c'est la collision entre le présent et le passé. Et là, pour moi, entre eux, aujourd'hui, il se passe rien. Et donc, ça fait quelque chose, pour moi, d'une cérémonie qui est un petit peu mortifère. Et ça m'a dérangée parce que je les ai regardés avec une certaine empathie, mais... en me disant, mais c'est terrible parce que j'ai l'impression que ces gens-là n'ont plus de vitalité et n'ont plus d'avenir. Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui, eux, face à moi aujourd'hui? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça génère, la reconstitution de cette rencontre et de cet amour très très violent? Parce qu'elle ne s'en est jamais remise, on le comprend. Elle a été complètement brisée par le fait qu'il la quitte. Mais qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, cette femme? Ben, je sais pas. Et qu'est-ce qu'il est, lui? Ben, je sais pas non plus. Et du coup, ça me pose quand même vraiment problème.
À la fin nous éclaire, quand même.
Oui et non.
Bon, alors, sans parler de la fin, évidemment, Marie-Josée Cirage, votre sentiment sur ce spectacle signé Pascal Rambert?
Partagé. Alors, évidemment, je trouve les deux acteurs extrêmement touchants, remarquables. Enfin, ils sont dans leur rôle. Je suis moins séduite par le texte, par le parti pris. C'est vrai que c'est la suite presque logique de Clôture de l'amour. Ça aurait pu s'appeler Autopsie de l'amour. Vous parliez des tables de cantine comme décor. Ça fait quand même table de médecine légiste. Enfin, c'est assez étonnant. Et donc d'ailleurs, dès le départ, on sait qu'il va y avoir quelque chose qui va se rapprocher à une autopsie, quoi. Donc c'est moi, dès le départ, sachant ça, je suis moins entrée dans cette histoire. J'ai pas éprouvé l'émotion qui est écrite sur le papier de ces deux êtres qui se sont aimés, déchirés, séparés et qui se retrouvent là. Alors il y a cet aspect clinique chez Rambert, toujours dans son écriture. On tient à distance les sentiments, les débordements, ça c'est évident. On retrouve la grande tirade à un moment donné qui est complètement dingue, où on entend
de la femme,
on entend, y compris, je crois que c'est à ce moment-là qu'on entend parler de la mère toxique. Enfin bon, ok, ça m'agace pour le coup. Mais voilà, alors c'est vrai que c'est à la fois touchant et à la fois ça nous laisse. Moi, ça m'a laissé un petit peu sur le côté. Je suis pas rentrée à 200% comme Fabienne. Même si cette idée de vouloir rembobiner le fil d'une histoire d'amour qui s'est coupée à un moment donné, c'est vrai que c'est presque pathétique avec leur faux décor complètement en toc, cette pluie qui goutte. Ils n'ont plus le corps de leurs 20 ans. On les sent pas trop palpiter non plus parce qu'il y a ce côté volontariste dont vous parliez. C'est vrai que c'est ça qui prend le dessus sur... Il pourrait être plus ému. Voilà, il y a quelque chose où. Mais je
lui
pense que c'est des.
Plus, je pense.
Eh bien, s'il lui dit à un moment donné, je t'aime encore, il lui dit quand même. Mais hop, vite, on repasse la ligne et on se tient à distance. Et ça, je pense que c'est Rambert qui tient vraiment à faire ce. C'est un regard très clinique sur l'amour. Il décortique, il est là. Donc, Clôture de là, c'était avant. Et puis, bon, là, c'est après. Voilà, donc
mais il y avait quand même quelque chose de vibrant dans Clôture de l'amour.
Dans les corps,
ça avait ce corps d'Audrey Bonnet.
Très volontariste, là,
oui,
pour le coup.
Hein,
absolument.
La manière de parler. Aussi était magnifique, hein.
Bien sûr, même la diction était totalement frontale.
C'est vrai,
ça, c'était
c'est vrai, mais pour moi, il y avait quelque chose qui se vivait au présent, dans cette rupture entre Audrey Bonnet et...
Mais oui, mais le propos, c'est justement de dire que pour elle, il n'y a plus de présent.
Il n'y en a plus depuis
la séparation.
Enfin, la vie s'est arrêtée.
Voilà, donc pour elle, la vie s'est arrêtée. Ce que vous avez ressenti, c'est ce qu'elle ressent, elle.
Oui, mais c'est, pour moi, le théâtre, c'est quand même du présent. Quoi. Enfin, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle est, cette femme, aujourd'hui?
Pas rien.
Ben,
elle vit terrible. Avec ses cartons. Voilà, sa vie est dans des cartons. Dans
c'est
cartons.
Ça qui est émouvant, c'est montrer ça. Elle l'attend, elle l'espère de cette reconstitution. Elle se réjouit, il lui fait ce cadeau, mais... Et ça va mal se terminer, forcément. Mais c'est ça, c'est bien de montrer ça.
Ben oui, c'est bien, mais je sais pas si c'est bien parce que moi, ça m'a gênée. J'ai été mal à l'aise. J'ai eu le sentiment d'être une sorte de voyeur qui assiste à cette déchéance et dont qui ne procure rien en scène. Voilà, c'est-à-dire que. Bien, on peut tout montrer, on peut tout raconter, évidemment, c'est pas le problème qu'on dise des choses malaisantes.
Déjà, montrer des corps vieillissants en scène, on le voit pas si souvent, Anna.
Oh, on le voit quand même.
Non, pas trop.
Mais c'est l'idée que. On voit un peu quand même, mais c'est pas. Au-delà de ça, pardon, je vous interromps juste pour relancer, puisque comme je n'ai pas vu le spectacle, je le répète, je pose des questions, puisque Véronique Dahuron et Guy Delamotte, ils ont toujours travaillé ensemble, même s'ils ne sont plus un couple d'amants. Ils ont donc une fille, vous en avez parlé. Donc qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont toujours directeurs de théâtre qui créent des spectacles année après année. Ils ont une vie commune de travail. Il y a à un moment donné une séparation sentimentale, mais qui continue dans la vie de travail. Et on sait bien que Pascal Rambert, dans ses spectacles précédents, et a fortiori celui-ci, se nourrit absolument de sa propre vie, de la vie des gens qui l'entourent. Et moi, j'avais cru comprendre que ce spectacle était vraiment une reconstitution, on ne peut plus véridique. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est affirmé dans le spectacle? Est-ce qu'on peut diriger des gens qui rejouent leur propre vie? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de présent par rapport à ça, justement, Anna Segalevitch?
Je pense, non, il a quand même fictio. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont, par exemple, profs, hein, dans le.
Ah, d'accord.
Dans le. C'est pas exactement.
Ça, pour le coup, j'ai pas eu le texte. J'ai eu quelques extraits, mais j'ai pas vu le texte en entier.
Ils sont profs tous les deux, ils sont agrégés tous les deux.
Il a fictionné.
Oui, il a fictionné. Ouais. Absolument. Donc,
Les dirige, eux, comme il a dirigé, on parlait de Laurent Poitrenaud, d'Audrey Bonnet, de Stanislas Nordet, de Denis Poulidalides.
Oui, il y a du théâtre, il y a de la fiction. Oui, c'est pas le réel qui est malaisant. Enfin, moi, j'ai pas eu le sentiment d'être voyeur des vrais personnages qui sont mis en scène. Comme on pouvait avoir le sentiment, par exemple, dans certains spectacles qu'on a vus cette année La Colline aussi, Stadium, où j'étais très gênée par le dispositif de vrais gens mis en scène. Non, là, c'est clairement des acteurs qui font part d'un désir à un metteur en scène, d'accord, qui utilisent
des éléments de la matière, mais
ensuite qui crée un spectacle et un texte de fiction avec ces deux acteurs. Ouais.
Marie-Josée Sirach.
En fait, en vous écoutant, ce qui me gêne le plus, c'est le personnage de la femme, tel que Pascal Rambert l'a conçu, parce que finalement, elle est victime de cette histoire d'amour. Et c'est là où Rambert...
Mais non, elle n'est pas victime.
Si, elle est victime et soumise, et elle n'a plus de vie à partir de la rupture.
Il faut arrêter de penser que les femmes sont victimes toujours, Marie-Josée. Elles n'est pas victime.
Elles ne sont pas victimes.
C'est elle qui fait la reconstitution. C'est elle qui pousse.
Mais elle se fait du mal. Elle n'a même pas réussi à s'émanciper de cette fin d'histoire. Il y a une vie après une rupture amoureuse, heureusement, parce que sinon...
Visiblement pas dans son cas à elle, mais ça pourrait être son cas à lui, enfin c'est pas une question
de genre. Elle le pousse.
Je sais pas, moi ce discours de victimaire sur les femmes, c'est pas bon pour nous les femmes.
Je crois pas que Marie-Josée ait un discours victimaire sur les femmes.
Je dénonce le discours victimaire.
Au contraire, elle est forte, puisqu'elle lui impose cette reconstitution, c'est pas évident.
Oui, mais c'est elle qui a subi la rupture quand même, c'est objectif. Elle a été quittée, elle s'en est jamais remise. Et elle a besoin pour se reconstruire et pour avancer et de revivre des choses avec lui et de...
C'est peut-être pas pour ça. C'est peut-être qu'avant de mourir, elle a envie de revivre ce moment ou de le revoir d'une manière différente.
Il y a quand même beaucoup de douleur chez cette femme.
Mais enfin, c'est elle la maîtresse du jeu quand même. Le jeu ne se fait pas sans
en
elle.
En l'occurrence, là, pendant une heure et demie, et c'est elle qui est active et c'est lui qui est plutôt docile et qui...
C'est elle qui commande le truc, qui dirige.
Une dernière question sur ce spectacle Reconstitution, puisqu'on connaît le succès qu'a Pascal Rambert de par le monde entier, et dans notre pays en premier lieu. Est-ce que vous imaginez une autre mise en scène de ce texte? J'aimerais que vous me donniez un autre couple d'acteurs possible pour vous. Qui imaginez-vous pour reprendre les rôles créés par Véronique Dahuron et Guy Delamotte? Vous faites des drôles de mines. Anna Segalevitch. C'est difficile.
François Château et... Mais non, mais ils sont toujours ensemble.
On parle d'une pièce jouée par des comédiens, écrite par un auteur et mise en scène par un metteur en scène, effectivement. Non, mais François Château, c'est une belle idée. Moi, j'aime beaucoup cet acteur. On va en parler dans un film qui sort là, bientôt. Bon, vous avez le droit de réfléchir. Et je vous repose la question à la fin de l'émission. D'accord, vous y réfléchissez. Ça ne va pas nous empêcher de parler d'autre chose, mais pour l'instant, rappelez tout de même que Reconstitution de Pascal Rambert se donne jusqu'au 23 mai au Théâtre de l'Aquarium, et le fait est que le texte est édité, ou le sera, au Solitaire Saint-Tempestif, qui publie d'ailleurs
Il est édité.
Ouais. Je vais me le procurer pour savoir un peu ce qu'il en est. Donc au Solitaire Saint-Tempestif.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Alors, on change de registre. On reste dans la vieillesse. Le troisième spectacle au service de cette dispute, c'est Névrotique Hôtel, mise en scène par Michel Faux. Alors, peut-être pour celles et ceux parmi nos auditeurs pour qui ce nom n'évoque pas grand-chose, peut-être se souviennent-ils que le comédien et metteur en scène avait crever l'écran lors d'une cérémonie des Molières, il y a quand même quelques années, en reprenant, c'est quelqu'un qui m'a dit, Carla Bruni déguisée et chantant, en diva légèrement déraillante. Le metteur en scène et comédien dont on parle régulièrement, parce que on va dire qu'il est un peu le maître du théâtre populaire de qualité ces temps-ci, ces années-ci, il revient avec un nouveau tour de chant mélancolique. Enfin, on pourra trouver d'autres adjectifs d'ailleurs. Humour aussi, féroce. Il est dans la peau d'une vieille dame, plutôt en fin de vie, hein, on va dire ça comme ça, seul dans une chambre d'hôtel en bord de mer et à partir de chansons inédites de Michel Rive Gauche, un nom qui ne s'invente pas, il n'y a pas d'eux entre Rive, enfin après Rive, Rive Gauche, et puis d'autres auteurs, et puis des musiques signées Jean-Pierre Stora, le poète et dramaturge Christian Siméon, qui lui a tramé un conte chanté donc et dialogué avec cette vieille dame indigne et un joli groom interprété par Antoine Caron.
Vous en faites beaucoup quand même. Le soir, quand les bateaux sont endormis, quand les néons brûlent leur vie, au dancing des trottoirs, hôtel des fous, je reprends de toi de Porto. Hôtel des fous, dans une chambre au bord de l'eau. Le soir, au rendez-vous de ceux qui croient qu'on ne peut pas aimer deux fois, je parle encore de toi, toi le voyageur égaré, dans les couloirs gris du passé, toi le nomade ensorcelé par ton propre voyage. Je m'endormais sous ton armure, l'acier qui cache tes blessures, et je pensais dans le silence qu'on me donnait enfin ma chance. Le soir, je te préférais à la vie, quand tu troublais la nostalgie en brisant les miroirs. Le soir, à l'intérieur de la musique, nous inventions des liens uniques, mais il était trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard.
Voilà pour cet extrait tout en finesse, névrotique, Hôtel de Michel Faux, et c'est Anna Segalevitch qui commence à nous en parler.
Eh bien, ce spectacle, j'y suis allée, moi, ces derniers temps, j'ai beaucoup aimé Michel Faux à un moment, puis je trouvais que, voilà, les deux, trois derniers spectacles, il avait un petit peu basculé dans une forme d'excès qui me faisait, en fait, moyennement rire, parce qu'il y avait quelque chose qui me glaçait, notamment dans le misanthrope, je trouvais qu'il devenait un petit peu la caricature de lui-même, et j'ai été gênée par ces derniers spectacles. Donc, je suis arrivée, j'y serais pas forcément allée spontanément, donc j'y suis allée évidemment pour l'émission, et puis quand le spectacle a commencé, donc on commence avec un décor carton-pâte, kitsch, assumé, avec qui représente une sorte de chambre d'hôtel en Normandie, avec un tableau extrêmement kitsch aussi du Mont Blanc. Et puis, il y a trois musiciens, donc piano, accordéon, violoncelle, qui sont côté jardin. Et puis, ils entrent en scène. Enfin, d'abord, Michel Faux entre en scène, en tenue vert anis, très Jacqueline Maillan dans sa façon de déambuler sur
perruque
scène
et de
bouger. Perruque blonde, un peu bouclée, blonde vraiment platine. Et puis là, je veux dire que immédiatement, il y a une sorte d'hilarité de la salle qui a été déclenchée dès qu'il met un pied sur scène, qui m'a agacée. Parce que je me suis dit, mais attendons de voir ce qui se passe, quoi. Regardons le spectacle, au lieu de rire parce qu'on est là pour se marrer, ha ha ha. Enfin, non, voyons, bon. Et
malgré tout ça, donc vous voyez, ça fait beaucoup de, quand même, de d'a priori que j'avais. Je dois dire que j'étais complètement prise par le spectacle, mais complètement, parce que Michel Faux, dans ce registre-là, est irrésistible de drôlerie, de finesse, de subtilité. Il a tellement regardé au théâtre ce soir, il connaît tellement toutes ces actrices, tout ce répertoire. Il le fait franchement génialement bien, avec autant de d'outrance que de finesse. Et puis ce qui est très beau aussi, je trouve, dans ce spectacle, c'est que le duo avec Antoine Caen fonctionne bien. On sent qu'ils s'amusent comme des fous, que je sais pas quels sont leurs rapports, mais en tout cas en scène, c'est un duo qui fonctionne admirablement bien. Et il y a, c'est un spectacle qui n'est pas que de la pure comédie. Enfin, il y a du fond, il y a de l'ironie, comme vous le disiez Arnaud, il y a quelque chose de féroce, et en même temps c'est délicieux, et on est cueilli, on est surpris nous-mêmes par la tendresse qui se dégage. Moi ça m'a beaucoup plu.
Marie-Josée Cirage sur Névrotique Hôtel.
Oui, c'est un très très beau spectacle, un spectacle de cabaret. C'est vrai qu'on pense à Jacqueline Maillan, mais on peut aussi penser à Marissa Paredes dans Talon Aiguille, dans cette façon de se coiffer, d'assortir ses boucles d'oreilles, à ses chaussures, à son sac à main, enfin tout est dans le détail. Non, c'est un très beau spectacle de chansons, c'est un pastiche réussi. Le nom effectivement de l'auteur des chansons, Rive Gauche, entre autres, parce qu'il n'est pas le seul, mais c'est un monsieur qui a écrit depuis les années 50 des chansons, donc il y a une marque, il y a un style, il y a une patte, c'est reconnaissable. Et je trouve que Michel Faux les porte à merveille, ces chansons, il les fait vivre, il les fait respirer. Dans la peau de cette diva capricieuse, odieuse, excentrique, qui donne des ordres, des contre-ordres, qui est prête à payer pour qu'on l'aime.
Qui dit « je veux qu'on m'aime pour mon argent ».
Je veux qu'on m'aime pour mon argent, ouais, c'est-à-dire qu'il l'assume totalement. Ouais, ouais. Ça, c'est magnifique, parce que c'est à la fois outrancier et c'est tellement... Et c'est émouvant, parce que elle est dans la recherche permanente de l'amour. Donc, elle se fiche des conventions et elle y va. Et ça, c'est vrai que c'est un sacré personnage. Et il est touchant. Plusieurs fois, moi, je me suis... j'ai senti les larmes monter. C'était incroyable, hein, parce qu'on rit, mais pas que, parce que ça touche quelque part au fond de nous. On se dit, cette détresse, cette solitude, ça peut nous arriver à tous, donc forcément, comment tu fais pour continuer à vivre, à respirer? Et donc, elle continue, elle a de l'argent, mais très bien, elle l'utilise comme ça, et c'est formidable, et avec ce groom, elle a un rapport à la fois presque pervers, parce qu'elle l'oblige à venir, à revenir dans sa chambre, pour un oui, pour un non, pour les valises.
Et il la domine complètement en même temps.
Et en même temps, c'est lui qui le met du jeu, mais peu importe, elle le sait aussi, c'est ça
bien
qui
sûr,
est beau.
Ils sont pas dupes, c'est ça qui est beau.
Personne n'est dupe dans cette relation. Qu'ils parviennent à tisser, c'est vraiment un très beau spectacle avec pas grand chose, et c'est ça qui est encore plus joli.
Vous semblez acquiescer, Fabienne Pascoal, tous être d'accord sur ce spectacle.
Oui, mes camarades en ont très bien parlé, mais moi ce qui me plaît surtout aussi, c'est la performance de Michel Faux, parce que en étant dans le faux total, il arrive à retrouver l'essence de la féminité, quoi, dans ce que ça peut avoir de monstrueux, de fragile, et il est plus que femme, tout en étant un homme. Donc ça pose des questions aux femmes que nous sommes. Ça tient à quoi, la féminité? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est cette violence, cette outrance, cette exagération? Est-ce que c'est au contraire cette quête éperdue de l'amour comme une midinette, mais en même temps avec une férocité? Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Et c'est ça, et il arrive à faire poser ces questions-là, ce que je trouve vraiment formidable, même, et il rappelle en même temps toutes les grandes traditions du travestissement, parce que le travestissement, ça existe depuis Shakespeare, depuis le théâtre Renault, et en France, son camarade Olivier Py n'arrête pas de pousser la chansonnette avec des barésies, Alfredo Arias aussi dès qu'il le peut. Donc on a vraiment toute une tradition du travestissement, et là il la porte à l'art, quoi. Et ça, je trouve ça magnifique.
Bon, ben voilà, un spectacle qui nous réunit. Alors moi, ça m'a d'autant plus réjoui que ça se passe au Bouffe du Nord, et que moi j'ai vu en fait un remake d'un spectacle qui avait été complètement raté il y a peu au Bouffe du Nord. C'est un remake de La Maladie de la Mort, ça vous aura pas échappé, le texte de Marguerite Duras.
Mais oui, ouais. Ça se passe d'ailleurs dans un hôtel.
Qui fait vivre par l'argent des mises en scène sexuelles. Ah, ça, tout d'un coup, voilà. Complètement. Ah, alors, après le ratage pour moi de Cathy Mitchell dans ce même lieu, il y a 3 ou 4 mois, qui était vraiment un cauchemar pour moi, une incompréhension du texte, donc voilà, c'est un peu pour la blague, mais je pense qu'il y a vraiment de cela. Non, et ce qui est merveilleux avec Michel Faux, moi j'ai pensé aussi à Gloria Swanson, parce que ce côté, il y a un côté hollywoodien aussi, voilà. Pas seulement franco-français, mais ça va plus loin, c'est qu'il est à la fois, ou comme dirait notre président de la République, en même temps, premier et xème degré. C'est-à-dire que ça pourrait pas être aussi bien s'il n'aimait pas absolument, passionnément, les chansons qu'il chante. Et je trouve que j'étais un peu circonspect sur l'idée de confier à Jean-Pierre Siméon, qui est un très bon auteur par ailleurs. C'est Christian, j'ai dit
oui,
quoi?
C'est Christian,
ah oui, c'est Christian, pardon. Christian Siméon, qui est un très bon auteur. Mais comment coudre quelque chose qui soit une trame entre des chansons qui ont certes une inspiration un peu commune, mais c'est toujours, ça me paraît toujours un peu artificiel. Et là, je trouve que il y a un véritable spectacle,
hein. Anna Segalovitch. On est pris par l'histoire, on y croit. Il y a des surprises, il y a du suspense. Moi, vraiment, j'ai été dupe. Pour le coup, eux ne le sont pas du tout, mais moi j'étais complètement prise par l'histoire. Et puis, en fait, de l'outre, enfin, la frontière tellement poreuse entre la caricature et l'outrance, il est comme un équilibriste là-dedans, parce que il n'est pas dans la parodie, et en même temps il est dans le travestissement, et en même temps il est dans l'outrance, mais il n'est pas dans la caricature. Et donc, comme vous le disiez, Fabienne, de ce faux, en fait, du goût du faux naît le vrai, en fait.
Puis et il a cette voix formidable, quoi, qui module, qui modèle.
Ah, il fait ce qu'il veut.
Il fait ce qu'il veut. Ouais. Il peut chanter à peu près tout. Et cette voix, il a un organe grave. Il peut monter. Il est magnifique. Mmh. Cette voix est superbe. Aussi, il a une voix. Et ils sont pas si nombreux les acteurs de théâtre aujourd'hui à avoir des voix.
Il a une voix. Moi, j'ai quand même une petite réserve sur les chansons. Je trouve que c'est dommage parce que c'est pas écrit totalement, comme c'est quand même taillé sur mesure, pour Antoine Caron, c'est souvent trop grave. Mmh. Et donc, c'est pas écrit dans sa... Enfin, par moments, on se dit que c'est presque une quinte trop grave, quoi. Donc, il arrive pas, donc il est dans ses graves et c'est un peu dommage.
Voilà,
c'est pas grave, hein, mais c'est un petit peu dommage.
Un commentaire ou des commentaires, Issa Tundoy ?
Des commentaires contrastés. Anne Angelo écrit sur Twitter « Il fut un temps où Michel Faux pouvait tout oser, tout faire passer, et là plus rien ne prend, c'est très triste. Pour elle, ce spectacle signe tout bonnement la fin de Michel Faux. »
Ah bon ?
Sébastien Lanneau a, quant à lui, trouvé Michel Faux excellent, passant du burlesque au tragique, son personnage l'a tour à tour agacé, fait rire, ému. Son acolyte Antoine Caron était juste parfait et les musiciens au diapason. Il a passé un excellent moment. Et enfin, je vois un message de Thomas Beau, notre réalisateur, sur Facebook, qui nous propose 2 noms pour la distribution de Reconstitution. Patrick Chenet, Nathalie Baye.
C'était suspense, non, je vais vous le demander dans un instant, mais je voulais quand même citer Mathieu Elfassi, qui est un complice déjà ancien de Michel Faux, qui est au piano, c'est Laurent Derage à l'accordéon, et Lionel Allemand au violoncelle, citons-les aussi, puisqu'il participe pleinement de la réussite de ce spectacle névrotique hôtel, mise en scène Michel Faux, jusqu'au 27 mai au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Et en effet, nous ouvrons cette séquence que nous attendons tous.
Qui va réfléchir?
On va faire répéter doucement et Issa Tundoy pour ça. Qui, pour reprendre le jour où ça viendra, reconstitution de Pascal Rambert. Donc, alors, la réponse de notre réalisateur.
Patrick Chenet et Nathalie Baye du côté de la régie.
Bon, très bien.
C'est pas mal.
Fabienne Pascal. J'ai 2 options. Ah. Lynn Renault, Charles Aznavour.
Il faut se dépêcher.
Il faut se dépêcher. Et sinon, Isabelle Huppert, Gérard Depardieu.
Oh là là. Bon, bah, moi, mal, hein, voilà, je capitule immédiatement. Marie-Josée Sirache.
Moi, je pensais à François Château et Martine Schambacher.
Bon, c'est très bien aussi. Anna Segalovitch.
Anne Alvaro, peut-être. Et François Martouret.
Ah oui. C'est bien. Non, mais quand on me dit Huppert Depardieu, moi, fonds absolument. Bon, j'avais noté, moi, François Château et Myriel Herzbeyer, mais voilà, chacun ses envies. Donc, bon, il y a beaucoup de distributions possibles pour cette pièce que j'ai pas encore lue, donc je fais les distributions de spectacles sans lire les pièces. C'est très mal, je vais la lire. Ben voilà, il est temps maintenant de passer au jeu de la dispute. Et pour ce faire, Camille André, qui live tweet tous les soirs cette émission, nous rejoint pour nous rappeler d'abord la question de vendredi, nous donner sa réponse, Camille.
Eh bien, on se demandait dans quel film Lisbeth Skrewetz interprète-t-elle Bettina, passionnément amoureuse de Marcus, incarnée par Sam Lovick. Et il s'agit de Lost Persons Aria.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour le spectacle Paroles gelées d'après Rabelais, mise en scène Jean Bellorini, un spectacle, enfin des places à gagner pour ce vendredi 18 mai, c'est à 20h au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Quelle est la question ?
Eh bien, quel metteur en scène a monté en 1969 la pièce intitulée Rabelais au théâtre Élysée-Montmartre ?
Ah ben, dis donc, il faut aller chercher dans les archives avec vous. Si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales par courriel à l'adresse mail suivante auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, sur laquelle vous pouvez aussi réécouter cette émission et vous abonner à son podcast. Préparez vos commentaires via Facebook ou via Twitter pour l'émission de demain à 19h qui sera consacrée à la musique. Nous serons en compagnie de Sophie Rosemont, Mathilde Serrel et Joseph Gosn sur nos platines. Seven, The Beach House, Tranquility Base Hotel and Casino des Arctic Monkeys et The Four Worlds de Mark Pritchard.